Ce programme vous est proposé en partenariat avec l'ambassade des États-Unis.
Les grands débats.
Radio de la paix.
Bonjour à tous, bienvenue à l'émission Démocratie en progrès. Dans le cadre de ce rendez-vous, nous allons débattre du thème « Les jeux d'alliance à plaisanterie, un outil de promotion de la cohésion sociale ». Pour en parler, nous recevons M. Koulibaly Thiozon, directeur général de l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale, Dr. Yar Jérôme, chercheur formateur en culture de la paix et gestion des conflits au département de la recherche de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. L'émission Démocratie en progrès est présentée par Ben Diakité, réalisation Antoine Kouassi.
Radio de la paix, se parler, s'écouter, se comprendre.
Bonjour messieurs, comme je le disais en introduction de cette émission, nous allons parler aujourd'hui des jeux d'alliance à plaisanterie, un outil de promotion de la cohésion sociale. Avant en toute chose, docteur Yajuram, je vais vous permettre de nous dire c'est quoi les jeux d'alliance à plaisanterie.
Alors, il faut entendre par jeux d'alliance à plaisanterie les alliances interethniques qui sont des contrats ancestraux signés entre les ancêtres de nos peuples à un moment donné et qui impactent la vie de nos différentes communautés pour régler les conflits, dédramatiser les conflits, la violence, et déconstruire la violence, fraterniser, créer la cohésion, l'entente, la concorde, la fraternité. Mais au-delà des alliances interethniques, il y a aussi la famille à plaisanterie également qui peut unir les éléments d'une même famille, notamment les grands-parents aux petits-enfants et puis les alliances intra-groupes hein, par rapport au nom, au patronyme. Donc, c'est les trois catégories d'alliances à plaisanterie qu'on peut énumérer et dont la Côte d'Ivoire dispose pour régler les problèmes et les conflits fraternisés en Côte d'Ivoire.
Monsieur Koulibaly Thiozon, vous, dans le cadre de votre travail, à quel moment vous avez recours à cet instrument-là?
Merci, Monsieur Ben. Évidemment, ces outils-là, il faut savoir que nos parents les ont utilisés depuis longtemps et nous devons les promouvoir aujourd'hui et donc les utiliser pour régler donc les conflits qui interviennent aujourd'hui dans nos différentes communautés. Donc, il arrive très souvent dans le cas des conflits intercommunautaires que nous rencontrons, que nous fassions jouer donc ces alliances interethniques pour essayer donc de gérer de façon pacifique, pour essayer donc de créer donc une médiation entre les deux communautés en conflit.
Alors, si vous voulez bien, nous allons vous permettre et permettre également à nos auditeurs d'écouter le professeur, l'historien Alou Kwame que nous avons interrogé sur la question. Il revient ici sur l'origine et sur le mode de fonctionnement de ces alliances à plaisanterie.
Radio de la paix, se parler, s'écouter, se comprendre.
Ce n'est pas tous les peuples qui sont alliés. Certains peuples qui ont fait alliance sont alliés, c'est comme ça. Mais il faut comprendre qu'en général, les alliances interethniques se mettent en place de deux façons, en général. Soit leurs ancêtres se sont rencontrés, la rencontre peut s'être bien passée, mais il arrive aussi que la rencontre ne s'est pas bien passée et qu'il y a eu des affrontements, il y a eu le sang versé. Et puis à la suite de ça, ils décident désormais de ne plus jamais en venir aux mains et de régler toujours leurs différends pacifiquement. Voilà les deux possibilités. Il y a aussi le fait qu'il y a des alliances internes, c'est-à-dire qu'ils sont des alliances de défense militaire. Vous voyez, c'est-à-dire des gens, des groupes qui se mettent ensemble pour dire que s'il y a la guerre, on mutualise nos forces pour nous défendre. Bon, moi, souvent, j'ai entendu dire, on dit, ah, les BT, ils n'ont pas d'alliés. Non, c'est entre les différents groupes BT, ils ont des alliances militaires, ils se mettent ensemble pour combattre. Comme, par exemple, il existe deux alliances militaires en pays Djoukrou, vous voyez. Mais en général, c'est les ancêtres qui sont rencontrés et ils ont décidé de vivre pacifiquement. Regardez par exemple les Mangoro, qui sont des Mandé, des Malinké, et puis les Tagbana. Les Mangoro sont venus trouver les Tagbana dans la région de Katsiola. Ils ont décidé de vivre pacifiquement. Et même ils en sont venus à décider que non, ils ne doivent pas contracter de mariage. Or, le mariage, c'est une alliance matrimoniale. Mais ils disent que non, on considère que désormais, là, nous sommes comme une famille. Si nous nous marions, c'est comme si c'était un mariage consanguin. Vous voyez? spirituellement, ils décident que ce sera un mariage consanguin. Donc, ils décident de ne pas contracter de mariage. C'est comme ça qu'il y a eu l'alliance entre les Mangoro, hein, qui sont d'origine Malinké, Mandé, Nord, et puis les Tagbana. Maintenant, il y a eu une alliance, par exemple, entre ce qu'on appelle les Yakuba et puis les Senoufo. Vous voyez que les Senoufo sont légèrement au nord de l'espace Dan. Bon, entre les Dan et puis les Senoufo, il y a ce qu'on appelle les Wemembo, c'est-à-dire les Toura. Mais en fait, les Toura et puis les Dan sont très proches culturellement. Et puis même au plan linguistique, ils sont très proches. Les ancêtres ont traversé les faces que vont habiter les Senoufo. Vous voyez, ils ont traversé cet espace-là qu'habitent les Senoufo. C'est ainsi qu'ils ont contracté alliance. Il y a une grande alliance entre les Dan et puis les Senoufo. Vous voyez, c'est cela. Et souvent, les gens appelaient ça à plaisanterie parce que, bon, ils se chahutent un peu entre eux. L'un dit, ouais, toi, tu es mon serviteur. L'autre aussi dit, non, c'est toi qui es mon serviteur. Je veux pas utiliser le terme esclave parce que le terme esclave, quand on dit que quelqu'un est un esclave, c'est-à-dire qu'il perd sa dignité humaine. Ça, c'est chez les Caucasiens là-bas, les Européens qu'on voit ça. En Afrique, quelqu'un qui est dans la servilité, il ne perd pas sa dignité humaine. Vous voyez? Et donc, les alliances de ce type-là, ça permet aux gens de circuler tranquillement, sans crainte. Vous voyez? Donc, le Dan, il peut se promener tranquillement en pays Senoufo. Le Senoufo, s'il vient en pays Dan, il peut se circuler tranquillement. Vous voyez? Et même alors, il a là une protection spéciale des Dan et vice versa. C'est comme ça. J'ai entendu les gens dire non, c'est les Abrons, les Bruns et puis les Baoulés n'ont pas d'alliance. Ils ont une alliance. Quand le roi Opoku-Waré avait envoyé une délégation pour demander aux Baoulés à Sabou, c'est-à-dire ceux qui sont venus à la reine Abrapoukou de retourner en Ashanti. Mais la délégation qui est venue là, une partie de la délégation qui est restée en pays Baoulé, ce sont les gens d'Assandré. Et à cette occasion-là, celui qui était d'ailleurs à la tête de la délégation Ashanti, c'est lui qui a créé un royaume Brun qu'on appelle Doma. Il est de la même famille royale que les Brun Djama. C'est lui qui a noué cette alliance. C'est à cette occasion-là d'ailleurs que les Baoulés ont donné le grand tambour que les Abrons ont, c'est-à-dire les Brons ont, qu'on appelle Bento, c'est-à-dire qu'on ne s'achète pas, c'est-à-dire la noblesse ne s'achète pas. D'ailleurs, cet ancien tambour que les Baoulés ont donné aux Brons, les Ashanti ont pris ça. Donc les Brons ont dû refaire notre tambour à l'identique, vous voyez, à l'identique. D'ailleurs, même les Baoulés avaient donné même des tambourinaires hein, qui se sont installés en pays Brons, voilà, pour apprendre comment il fallait jouer ce tambour-là. Il faut pas utiliser le terme de tam-tam parce qu'en Afrique ici, le tambour, c'est une institution. C'est pas seulement un instrument qu'on joue comme ça. Non. Donc, les alliances, c'était un peu ça.
Professeur Kwame Allo, est-ce que il y a des principes concernant les alliances? Est-ce que il y a des règles à observer dans le cadre des alliances ou des interdits?
L'élément principal, c'est qu'il faut pas verser le sang de l'allié. Il ne faut pas verser le sang de l'allié. Ton allié, là, faut pas verser son sang. Vous comprenez? Qu'est-ce qui entraîne le sang versé? Souvent, ce sont les guerres. Tu ne dois pas verser le sang de ton allié. Si tu verses le sang de ton allié, cela veut dire quoi? Non seulement tu as offensé les ancêtres de ton allié, mais toi-même, tu as offensé tes propres ancêtres. Donc, c'est ça le principe. Si, par exemple, un allié commet un adultère avec la femme de son allié, ben, qu'est-ce qu'on fait? Souvent, on donne à boire à celui qui est le mari cocu. Et puis, ça s'arrête là. Quelquefois, selon les régions, on lui prépare un petit morceau d'igname qu'il mange et puis il boit de l'eau. Ailleurs, c'est un petit morceau de banane plantée, il mange et puis il boit de l'eau. Voilà, on dit non, ben, tu laisses tomber parce que c'est ton allié, c'est vrai, il a eu des rapports coupables avec ton épouse, mais voilà, c'est ce que tu dois faire, tu dois laisser tomber à cause de l'alliance que vos ancêtres ont conclue. Nos ancêtres ne faisaient pas des alliances comme ça à la légère, hein. Voilà. Quand ils font une alliance, là, le créateur est convoqué, l'esprit de la terre est convoqué, les esprits bienveillants sont convoqués, et puis les esprits des ancêtres sont convoqués. C'est comme ça. Donc, quand ils regardent tout ça, là, le créateur est concerné dans l'alliance, il est témoin, la terre est témoin, tous les esprits bienveillants sont témoins, les esprits des ancêtres, les membres des ancêtres sont témoins. Donc, on ne peut pas t'amuser comme ça à abuser l'alliance. Voilà ce qui s'est passé. Voilà ce que je peux vous dire.
Professeur, comment est-ce que ces alliances là peuvent constituer des instruments de paix?
Oui, mais c'est possible. Mais est-ce que les hommes politiques respectent les alliances? C'est ça le problème. Le problème, ce n'est pas les populations en tant que telles. Ce sont les hommes politiques. Ça, je vous le dis franchement, hein, monsieur. Le problème, c'est les politiques. Eux, ils ne se sentent pas concernés par les alliances que les ancêtres des populations ont eu à conclure. C'est ça qui fait problème. Voilà. Et aussi, le problème aussi, c'est que quelquefois, les jeunes générations ne connaissent même pas ces alliances. Ils ignorent ces alliances-là et ils enfreignent à ces alliances. Voilà, donc c'est un peu ça. Sinon, les anciens respectaient pieusement ces alliances-là, voilà, c'est comme ça.
Mais professeur aussi, est-ce qu'il n'y a pas des défis par rapport à ces alliances-là? Est-ce que ces alliances-là ne peuvent pas aussi constituer de violations des droits des citoyens? Parce que parfois, on voit des gens qui ont posé des actes, mais on ne peut pas les juger. Un genre d'impunité.
Ouais, mais c'est vous qui pensez que c'est de l'impunité. Sinon, même quand les gens sont morts, les ancêtres, les esprits des ancêtres sont vivants. Voilà, donc si tu enfreins l'alliance volontairement et que tu t'en moques, mais tu en payes le prix. Cela ne veut pas dire que tu vas payer ça immédiatement, mais tu vas avoir une succession de malheurs, c'est comme ça. Maintenant, il y a le droit positif romain, en fait, c'est romain. Le droit français, c'est un droit romain. Hein, c'est ce que nos pays ont adopté. En Afrique, ici, on ne disait pas non, toi tu as raison, toi tu as tort, puis tu es condamné, etc. En Afrique, il n'y avait pas de prison. En Afrique traditionnelle, il n'y avait pas de prison. Tu pouvais, dans des cas graves, tu pouvais être chassé de la communauté. Ça, c'est comme ça. Tu es ostracisé, tu es chassé de la communauté. Mais l'alliance aussi, c'est quoi? Quand quelqu'un enfreint l'alliance, sa famille est concernée, c'est-à-dire son lignage est concerné. Et son lignage fait pression sur lui. Tu dis, mais son lignage lui dit, mais tu nous mets en danger. Parce que nos ancêtres ont contracté cette alliance-là. Toi, en l'enfreignant comme tu l'as fait là, tu nous mets tous en danger. Tu mets en danger la famille, tu mets en danger le lignage. C'était comme ça. Bon, combien d'émissions radiophoniques et télévisées sont faites pour expliquer le bien fondé des alliances et leur possibilité que ça serve aujourd'hui à réconcilier les gens, à amener les gens à avoir une attitude civilisée les uns envers les autres. Il n'y en a pas beaucoup. Si les populations connaissaient l'histoire du peuplement, mais les choses seraient différentes. Hein, moi, par exemple, je disais une fois aux étudiants, je dis, mais est-ce que vous savez que, par exemple, les Wé, ce qu'on appelle ordinairement les Wobegiri, du canton Sémien, de l'argent Sémien, beaucoup d'entre eux, les ancêtres sont d'origine malinké. Hein, c'est ça, c'est sûr. C'est pas sûr. Voilà, c'est ça. Donc, c'est ça. Tant qu'il n'y a pas des émissions pour faire connaître ces choses-là à nos populations, bon, ça reste comme ça. Regardez, par exemple, les bétés de la région de Soubé qui sont les Pada, du village de Pada. Les ancêtres, en fait, viennent de Pandadon, dans la région de Grand Laou. Donc, c'est un peu ça. Si les médias invitent les historiens à expliquer ces choses-là, à voir combien nos ancêtres ont tissé des liens, même de sang, où ils se sont mariés, tout ça, les gens comprendraient qu'il ne faut pas comme ça aller attaquer quelqu'un et puis verser son sang. Que non, ça ne se fait pas. Nos ancêtres n'aimaient pas ces choses-là. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est à vous maintenant, vous les gens des médias, qui pouvez amener les populations à savoir ces choses-là. Parce que tous ceux qui sont dans les villes ne savent pas, et même aujourd'hui, même les gens qui ont grandi au village ne connaissent même pas l'histoire de leur peuple, encore moins l'histoire de leur village. Donc, c'est un peu ça.
Professeur Kwame Allo, est-ce qu'il est possible de nouer de nouvelles alliances?
Mais vous voyez que les alliances qui sont tissées, ce sont des alliances politiques. Ça ne tient pas, ça fonctionne selon les circonstances du moment. Vous voyez bien. C'est ça. Mais aujourd'hui, ce sont les alliances politiques qu'on voit. Oh, nos ancêtres, là, quand ils faisaient les alliances, ça, c'est pas un jeu. Tu jures que si tu ne respectes pas l'alliance que tu as contractée, que tous les malheurs te tombent dessus, sur la tête. C'était comme ça. Quelquefois, même les alliances, là, c'était fait sur la base où chaque allié envoie un membre de sa famille ou bien un membre de son groupe qui sont sacrifiés. Oui, je vous le dis. Malheureusement, c'est comme ça que quoi, nos ancêtres faisaient des sacrifices humains. Mais pour dire que quand ils contractent une alliance, ce n'est pas un jeu. Quelquefois, les alliés, là, chacun d'eux envoie un parent qui est sacrifié. C'est comme ça. C'était très sérieux, les alliances. C'est pas un jeu. Voilà.
Mais professeur Allou Kwame, comment faire cohabiter les alliances, ces coutumes-là, ces traditions, ce modèle de vivre ensemble-là avec la loi romaine, comme vous l'avez dit? Comment on peut faire cohabiter ces deux façons de voir le monde?
Mais ça, c'est une affaire de volonté politique. Ça, c'est lié à la volonté politique. Est-ce que nous voulons faire, comme les Akans disent, un sankofa, c'est-à-dire un retour, un regard en arrière pour prendre ce qu'il y a de positif dans ce que nos ancêtres ont laissé? Ou bien on va suivre le modèle politique et social mis en place par les Européens, que les Européens nous ont imposé par la colonisation, et c'est ce que nous devons faire. Avant nos ancêtres, là, la gouvernance, par exemple. La gouvernance, toutes les forces vivent participaient à la gouvernance. Ce n'est pas que nous, on dit que certains s'opposent, et puis d'autres sont au pouvoir, et puis les autres s'opposent. Ce n'est pas comme ça, non. Tout le monde participe à la gouvernance. Donc, si c'est ça réussi, là, ça a réussi pour tout le monde. Si ça a échoué, là, ça a échoué pour tout le monde. Avant, c'était comme ça. En Afrique, la gouvernance était une gouvernance participative de toutes les forces vives. C'était comme ça. Si les gens veulent qu'on fasse des propositions dans ce sens, on le fait. Maintenant, si vous voulez utiliser toujours le système des Occidentaux où on dit certains s'opposent, comment on peut s'opposer aux intérêts d'un pays? Mais quelquefois, eux, ils sont contents que le pouvoir en place fasse des fautes pour qu'ils puissent profiter à des prochaines élections. Ou bien aussi, ceux aussi qui sont au pouvoir, ben, quelquefois, ils empêchent même les propositions de ceux qui sont en face. Donc, finalement, comment est-ce que dans ce cas-là, les intérêts fondamentaux du pays peuvent être préservés? Si vous êtes déjà à couteau tiré. Donc, ce système des Occidentaux, moi, je trouve que ce n'est pas bon. Voilà, ce n'est pas bon du tout.
Qu'est-ce qu'on doit retenir des alliances interethniques dans la vie de la communauté aujourd'hui?
La promotion et la diffusion, ce sont vous les gens des médias qui pouvez faire ça. Vous n'avez qu'à nous inviter, nous les universitaires qui connaissons le sujet. Et puis on en parle sur des plateaux de télévision publiquement, etc. pour que les gens sachent. C'est tout. C'est ça, c'est une affaire comme ça. Il y a des travaux qui ont été faits, des articles qui ont été rédigés sur ces questions d'alliance, sur le règlement des conflits, etc. Regardez par exemple, les Bétés, c'est même pas les Bétés seulement, c'est les Kouros en général, qui avaient des conflits, comment ils réglaient les conflits? Ce sont les neveux, c'est-à-dire les fils de ta sœur là. Et puis celui avec qui tu es en conflit là, lui aussi les fils de ta sœur là. C'est eux qui se mettent ensemble et qui réconcilient les belligérants. C'était comme ça. Par exemple, chez les Ouais, quand il y avait un conflit armé, que les gens s'affrontaient même durement et tout ça là. Mais quand les masques sortent, parce que les masques sont censés représenter les ancêtres, quand ils sortent, ils disent arrêtez les combats. Les gens arrêtent les combats. Donc c'est ça. Si vous voulez que les choses soient connues et que bon, les populations sachent ces choses-là, ce sera totalement différent. Sinon, on continue comme ça, on suit le paradigme des Occidentaux, des Européens.
Qui bon, doit être le dépositaire de ces alliances, de ces coutumes, de ces traditions?
Mais les dépositaires, ce sont les ancêtres. Ce n'est pas des gens que vous voyez avec les yeux physiques, mais ce monde invisible-là existe. Parce que tout ce que vous voyez matérialisé, là, ça vient du monde invisible. Vous-même, tout à l'heure, vous venez de me parler. Ce que vous avez dit, là, ça vient du monde invisible, du votre cerveau. Puis maintenant, c'est votre bouche maintenant qui a parlé, puis j'ai entendu ce que vous sentiez. C'est comme ça. Et nous, les universitaires, bon, on est là, on est prêt à répondre aux questions parce qu'il y a eu des études sur la question, c'est tout.
Ces alliances interethniques, professeur, est-ce que c'est partout, c'est la même chose, d'une contrée à une autre?
C'est le même schéma, avec quelques petites différences. Regardez, par exemple, vous remarquez qu'en Côte d'Ivoire, les Dida ont alliance avec beaucoup de groupes. Souvent, les gens ne savent pas pourquoi. Moi, j'ai donné des enseignements sur le net pour expliquer ça. Les Dida ont alliance avec les Abikam, ils ont alliance avec les Aladiens, ils ont alliance avec les Abel-Aguilés, ils ont alliance avec les Ébriers, etc. Ça vient d'où? Ils ont alliance avec les Adukou, ça vient d'où? Mais c'est parce qu'il y a un clan qui vient du pays Dida qu'on appelle le Bourbourou. Cette famille Bourboura s'est intégrée pratiquement à tous les peuples africains, la Guinée. Cette famille est représentée chez les Haïti, sont représentées chez les Odjoukrou, etc., etc. Donc c'est comme ça. Si bien que les Dida, ils ont alliance avec beaucoup de peuples alentours. Maintenant, cette alliance des Dida avec tous ces peuples alentours. Mais les Gobiers entrent dedans, parce que les Gobiers, ils ont des liens très directs avec les Dida. Les Néo entrent dedans, parce qu'ils ont des liens très directs avec les Dida. Donc c'est comme ça. Quels sont ceux qui connaissent les Gobiers ou bien les Néo? Mais les Dida, quand tu dis Dida, ils connaissent. Donc souvent, un Gobier, pour se présenter à soit un Odjoukrou ou bien un Abikam ou bien à un Haïti, il va dire, moi, je suis Dida. Voilà, c'est comme ça. Parce que d'ailleurs, entre les deux langues-là, il y a une telle compréhension avec des différences.
Merci au professeur Alou Kwabe qui a partagé avec nous ses réflexions sur la question donc des alliances interethniques. Monsieur Ya Jérôme, dans les explications que le professeur nous a données, à la fois sur l'origine et la manifestation de ces alliances-là, que c'était des engagements qui étaient pris par des ancêtres. Est-ce que ce qui est pris comme engagement par des ancêtres m'engage, moi? Si oui, pourquoi cela doit m'engager? Parce qu'on peut vous retroquer que le comtesse d'il y a 100 ans, 200 ans, voire plusieurs années, n'est pas le même qu'aujourd'hui.
Que nos compatriotes comprennent la chose. Quand on pactise, quand on signe concernant les alliances, là, c'est véritablement des contrats. Ce sont des engagements. Et puis, comment c'est arrivé? Écoutez, c'est de manière symbolique. Parce qu'avant, il y avait eu des conflits. D'abord, il y a quatre formes qui expliquent comment les alliances-là ont pu émerger et qui engagent toutes les communautés, les groupes alliés. La première cause, c'est les recherches de positionnement, de déplacement. Lorsque les peuples se déplaçaient et recherchaient gîtes et couverts pour cultiver, planter, vous voyez que généralement, ce sont les alliances de bon voisinage. Généralement, les peuples recherchaient les zones forestières, les points d'eau où c'est fertile, on peut faire la culture, l'agriculture pour pouvoir s'installer. Et quand ils trouvent un peuple, généralement, il y avait des conflits parce qu'il y a l'expansion, la recherche d'expansion pour trouver des terres cultivables. Donc, ce sont des problèmes liés aux conflits fonciers, des conflits de positionnement qui expliquaient comment les alliances ont pu exister. Parce que les ancêtres voulaient éviter qu'il y ait résurgence de dix conflits. Deuxième chose, vous savez qu'on dit généralement que l'argent ou la femme, c'est le nerf de la guerre. La femme a été toujours aussi à l'origine des conflits communautaires, des conflits entre groupes qui vivaient rapprochés. Et ce type de conflit, c'est comment lorsque on prend la femme d'un dignitaire et qu'un chef vénéré, qu'une autre communauté étrangère prend la femme du dignitaire, ça envoyait toujours des conflits. Et d'ailleurs, c'est ça qui explique l'alliance entre gourous, Yakuba et qui implique les Sénoufos. La légende dit que le gourou avait cherché la femme de Yakuba Et ils se sont battus, ils se sont crêlés, hein, ils se sont entretués. Et pour mettre un terme à ce conflit, les Yakuba ont demandé au gourou de leur offrir un lion vivant. De vous à moi, comment on peut attraper un lion vivant? Ça veut dire que on va continuer de tuer. Et renseignement pris, les gourous se rendent compte qu'il y a un vieillard, c'est nouveau, quelque part dans la savane, hein, qui avait la capacité de dompter les félins, d'attraper les lions vivants. Et ils sont allés voir le vieux, c'est nouveau, qui a attrapé le lion, il a offert au gourou. Et puis, l'histoire continue. Un Yakuba vient chercher la femme d'un gourou. À leur tour, ils disent, bon, envoyez-nous une panthère vivante. Et ils se renseignent, ils disent, mais à leur temps, c'était un vieux sénoufo, et ils vont solliciter le même vieux sénoufo. Alors, ils leur donnent la panthère, ils disent, mais vous là, votre affaire de femme là, je ne veux plus, parce que moi, je n'ai plus la capacité d'attraper les panthères et les lions pour vous offrir. Voilà comment ils ont pactisé, et vous voyez que c'est une alliance très forte, parce que les sénoufos sont les bienfaiteurs des gourous et des Yakuba. Bref, et maintenant, troisième chose, c'est la recherche en or. Parce que avant que nos aïeux là, utilisaient la corie comme monnaie, après la corie, ils ont utilisé l'or. Et donc, vous savez que l'or, en recherchant l'or, ça crée toujours des problèmes parce que c'est directement lié au conflit foncier et que ça envoyait des palabres. Donc, c'est pour ça qu'ils ont pactisé. Et quatrième et dernière raison qui est fondamentale, c'est l'islamisation. Vous savez que la pénétration de l'islam faite par Samori Touré depuis le nord jusqu'à l'est de la Côte d'Ivoire, elle fut violente. Et initialement, nos peuples sont animistes et à un moment donné, et que l'islam amène les peuples à se bagarrer, à ne pas s'entendre, mais les gens disent, mais il faut qu'on arrête, nous sommes des frères. Si on devient musulman à cause de Samori, nous avons notre tradition. Vous savez qu'initialement, le Nord, tout le monde est animiste. Et donc, voici les raisons fondamentales. Et pour mettre fin à tous ces crises, ces tensions et ces conflits, les parents et les aïeuls, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils arrivent à faire des sacrifices. Et en tant que société animiste, traditionnellement, et une fois qu'on a fait des sacrifices, il faut respecter les sacrifices parce que c'est des symboles et c'est basé sur des totems. C'est pour ça que ça doit nous engager aujourd'hui. Parce que notre origine est basée sur des sacrifices qui ont été faits. Et voilà pourquoi on ne peut pas violer les lois parce que c'est des lois qui nous engagent. Et une loi, c'est une jurisprudence. Et si on a ces jurisprudences-là, comment on peut les violer? Comment on peut s'en détourner alors que la vie que nous menons dépend toujours de la communauté que nous avons, dont nous avons hérité. Et vous voyez que ces alliances-là ont créé l'État-nation et ça fait que nous avons une communauté de destin ou bien une vie commune.
Monsieur Koulibaly Thiozo, dans la pratique de tous les jours, on voit que au sein de nos populations, de nos communautés, il y a parfois la résurgence hein, de conflits. Aujourd'hui, on parle de conflits fonciers. Également, on parle aujourd'hui aussi de l'orpaillage illégal. Donc, tous ces conflits, est-ce que vous utilisez, vous, dans le cadre donc du règlement des conflits qui se posent à nos populations, ce mécanisme de résolution? Ou bien vous faites référence, vous, à la justice, aux instruments républicains qui existent?
Merci. Il faut retenir que nous utilisons les deux instruments, les deux outils, tous les outils qui permettent donc de résoudre ces conflits, nous les utilisons et nous les mettons à l'épreuve. Alors, je vais peut-être vous donner le cas le plus récent, le conflit entre les communautés Malinké, Sénoufo et Gouro à Bédiala. Et donc, dans le processus de résolution de cette crise, les deux communautés ou la communauté Sénoufo a dû recourir à un allié commun pour venir donc faire la médiation. Et donc, le processus est engagé aujourd'hui et c'est vrai que le conflit n'est pas totalement résolu, mais déjà, il faut saluer le fait donc de recourir à ce mécanisme-là. Donc, c'est clair qu'il faut encourager cela. Et le ministère s'est mis aujourd'hui dans une disposition où il faut encourager ces mécanismes endogènes de prévention et de gestion pacifique des conflits. Parce que de quoi s'agit-il? Aujourd'hui, il s'agit de promouvoir nos valeurs, notre culture. Je suis heureux aujourd'hui de voir que tout le monde fait recours aujourd'hui au souverainisme, à l'autonomie, etc. Mais on est souverain par rapport à quoi? C'est sa culture. Et ces valeurs, ces outils-là, les alliances interethniques, font partie de notre culture. Et ces outils, pour ce que je sais, ont permis à nos ancêtres de vivre dans une société assez harmonieuse. En tout cas, nous n'avions pas à l'époque, c'est vrai qu'il y avait des guerres et autres, mais nous n'avons pas à l'époque des conflits intercommunautaires de façon récurrente qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, moi je vous vois, ou bien je vois un gourou, je dis c'est mon esclave. Mais il arrive à transcender cela, à accepter cela devant tout le monde. Je vais vous poser la question, c'est la violence, les conflits violents naissent de quoi? C'est quand vous vous sentez humilié, frustré, que vous allez vous mettre dans un état second et vous pouvez en venir aux mains. Mais si vous avez réussi à intérioriser cela, à savoir vous maîtriser, quelles que soient les injures que vous avez en face, il va sans dire que les circonstances qui vont vous amener à sortir de vous-même vont s'amenuiser véritablement. Et on aura de moins en moins de conflits.
Radio de la paix. Se parler. S'écouter. Se comprendre.
Amis auditeurs, vous suivez l'émission Démocratie en progrès et dans le cadre de cette émission aujourd'hui, nous parlons des jeux d'alliance à plaisanterie, un outil de promotion de la cohésion sociale. Alors, Monsieur Yajirom, la question c'est que très souvent quand on parle de jeux d'alliance à plaisanterie, on a recours au village, retour aux sources. Alors, le village, il a à la fois aussi ses côtés positifs aussi, comme ses côtés mythologiques, pour ne pas dire les côtés qui font un peu peur. Est-ce que ce retour-là, ce retour à nos sources-là, comment on fait pour apaiser tout le monde que ce qui vient du village, notamment ce mécanisme de règlement de conflits, est quelque chose de positif pour notre société?
C'est une erreur de croire à cela et de cultiver cette psychose à l'égard des jeunes gens, nos enfants et ceux qui sont appelés à assurer la relève de demain. Si nous le faisons ainsi, ça veut dire que nous marquons totalement l'arrêt de la vie de la Côte d'Ivoire et de toutes nos communautés. Vous voyez, je suis d'accord avec vous parce que nous faisons face à de plus en plus à une société de déclin parce que nous perdons toutes nos valeurs, toutes nos ressources. Je suis contre cette ascension parce que aujourd'hui, héritier de la colonisation et de la justice, on nous a amené à faire croire que le Toukbe ou le Djonke, c'est l'appellation familière dans nos langues, que c'est des mécanismes alternatifs de règlement des conflits, mais ce qui n'est pas vrai parce que nous devons les considérer comme des mécanismes fondamentaux pour régler nos différends. Et maintenant, pour revenir à la préoccupation que vous soulevez, Monsieur Bendiakité, le village a quoi pour faire si peur? Est-ce qu'au village, nous avons des âmes, nous avons des tués là-bas? Non, au contraire, il faut se ressourcer. Et d'ailleurs, c'est pour ça que, pour ce qui concerne le sujet sur les plateaux, il faut enseigner à nos jeunes gens, déjà depuis la maternelle, le primaire, le secondaire et l'universitaire, non seulement la genèse des alliances, les fonctions des alliances, les principes totémiques, et surtout, essayer de vulgariser ces alliances-là. Et comment? En intégrant nos chefs traditionnels, la Côte d'Ivoire, depuis 2016, à la Chambre des rois et chefs traditionnels d'une institution qui est créée. Quel est le rôle que cette institution doit pouvoir jouer? C'est de véhiculer la connaissance et l'apprentissage et en compétences transmissibles en tant que valeur pour ériger et consolider nos rapports sociaux et maintenir la fraternité, l'entente et l'union au sein des populations. Que nous soyons jeunes enfants, il faut qu'on arrive à connaître véritablement les Toukbés et qu'on en mette ça en pratique. Et surtout, lancer un autre appel à l'endroit des décideurs, c'est qu'on arrive à créer une journée nationale des alliances en Côte d'Ivoire. Et donc, moi, je propose le 16 novembre de chaque année. Pourquoi le 16? Parce que la Côte d'Ivoire célèbre la journée nationale de la paix le 15 novembre et le 16 est déclaré journée internationale de la tolérance. Et la Côte d'Ivoire pourrait s'en prévaloir pour créer vraiment cette tolérance-là, cette acceptation de la différence et cette unité chaque 16 novembre. Et à partir de cette journée-là, on peut féliciter tous les chefs de village qui s'appuient, qui ont recours aux alliances et pour régler des problèmes politiques et pour régler des problèmes électoraux et pour régler des problèmes communautaires et pour régler des problèmes fonciers de manière à ce que
on puisse motiver l'ensemble des chefs et rois, et les chefs cantons, les chefs de villages, les chefs de tribus à s'intéresser, à recourir aux alliances pour régler les différends. Vous voyez que nos conflits électoraux 2025, nous en sommes déjà. Il y a une crispation qui se vit par rapport aux élections. On ne sait pas comment ça va se passer. Mais les alliances sont là pour décrisper cette tension, pour déconstruire l'aspect de la violence qui plane sur l'État-nation de la Côte d'Ivoire et pour créer vraiment l'harmonisation des rapports qui soient électoraux. Non, écoutez, on en a besoin. Donc, il faut encourager la connaissance des alliances, accepter de faire partie nos enfants au village et puis impliquer les chefs de village, les rois dans la formation des enseignants parce que c'est eux qui transmettent la connaissance. Et puis les impliquer aussi davantage à aller dans les écoles, à faire apprendre à nos enfants pourquoi tel groupe est allié à tel groupe. Et faire connaître la cartographie des alliances. Et puis le problème majeur, on peut voir des gens se titiller quand il y a la paix. Mais dès l'instant où il y a une tension, dès l'instant où il y a une frustration, automatiquement, ceux qui sont en train de se titiller, ils en viennent aux mains, ils se bagarrent, ils peuvent aller jusqu'à se blesser. Pourtant, le principe totémique interdit de s'affronter physiquement ou alors de faire verser le sang. Et le principe, il est basé sur trois choses. Quand vous violez le principe du tukpe, vous avez fait palabre, que ce soit entre deux protagonistes, ou que ce soit des groupes de protagonistes, le premier principe, c'est que vous prenez une brindille de balai. Vous savez que dans les villages, dans chaque coup, on trouve au moins un balai. Vous prenez une brindille de balai, vous rompez en deux en prononçant la formule consacrée au nom du Tukpe, je te pardonne, ou au nom du Tukpe, pardonne-moi. Si vous êtes sur une route, que vous êtes venu à vous bagarrer, même s'il y a eu mort d'homme, on ne partait pas assigné en justice. Vous savez que dans nos peuples traditionnels, envoyer quelqu'un à la gendarmerie ou en prison, c'était une malédiction. Et donc, du coup, on prend une brindille de bois sec, vous rompez en deux, vous dites au nom du Tukpe, pardonne-moi, au nom du Tukpe, je te pardonne. Troisième principe expiatoire, c'est que s'il y a eu quelque chose dramatique pour expier la malédiction parce qu'on a violé le Tukpe, on peut verser de l'eau ou bien faire un sacrifice symbolique ou une amende symbolique. Voici comment nos aïeuls, très sages, ils réglaient les problèmes pacifiquement et on n'arrivait pas à créer la rancune, la rancœur et la haine.
Merci beaucoup, Monsieur Yajerom, pour toutes ces explications sur l'efficacité de ce mécanisme qu'est les jeux d'alliance à plaisanterie dans le maintien de la cohésion sociale. Monsieur Thiozon Koulibaly, on a écouté les explications de Monsieur Ya. On se rend compte que généralement, donc ces alliances-là, c'est tissé entre deux peuples. Parfois, il y a une dérivation. On peut avoir un troisième peuple qui vient s'ajouter. Contrairement à la loi, on va dire, entre guillemets, romaine, où les décisions sont beaucoup plus élargies. Est-ce qu'en termes d'efficacité, cette alliance que moi, par exemple, mon peuple a avec les Sénoufo, est-ce que l'autre qui n'est pas concerné, le Dida, avec les Briers, par exemple, est-ce que c'est valable pour eux? Est-ce que le fait que ça soit avec un groupe précis donné, est-ce que c'est pas aussi l'une des faiblesses de cet instrument?
Merci bien, mais peut-être que ces alliances, il y a par transitivité. Mm-hmm. Vous pouvez avoir des alliances, je peux avoir une alliance avec Dr. Ya, et je n'ai pas d'alliance avec vous, mais vous avez une alliance avec Dr. Ya, et donc par le fait que j'ai déjà une alliance avec Dr. Ya, j'ai un lien avec vous. Pour dire qu'on peut toujours retomber sur les pieds. Je voulais donc revenir sur votre question qui est quand même essentielle parce qu'aujourd'hui, c'est comment promouvoir ces outils-là pour que nous puissions les utiliser à bon escient pour retrouver, en tout cas pour moi, le calme, la tranquillité, la cohésion qui régnait dans nos sociétés avant. Tout est une question de construction, d'éducation. Nous avons peut-être, vous et moi, ceux de notre génération, nous sommes nés dans cette question du droit humain, de la justice romaine là. Nous avons grandi, nous avons été éduqués à cela. Si bien qu'aujourd'hui, vous dites que quand on parle de village, les gens ont peur du village. Mais nous avons contribué à diaboliser nos valeurs, à diaboliser nos pratiques. Aujourd'hui, vous allez ailleurs, pour certaines personnes qui ont vécu en Côte d'Ivoire avant les indépendances jusqu'en 90 et qui continuent de vivre, ils vous diront que j'aurais préféré rester dans le parti unique parce que votre affaire de démocratie, là, ils en ont peur. Voilà, ce n'est pas parce que des outils ont été oubliés ou insuffisamment utilisés ou mal utilisés à un moment donné qu'on va dire que ce n'est pas bon. Tout ce qui se passe au village, si on l'enseigne, il n'y a pas que du mauvais au village. Notre pratique, nos coutumes, c'est vrai, ont des insuffisances, des limites. Mais il y a beaucoup de bon là-dedans. Pourquoi ne pas promouvoir? Si nos enfants baignent dans cela, dans un environnement culturel qui promeut ces valeurs, évidemment, ils ne vont pas regarder d'un mauvais œil désormais le village, ils ne vont pas regarder désormais d'un mauvais œil toutes les pratiques traditionnelles de valeurs que nous avons. Et je suis convaincu, on disait tout à l'heure, aujourd'hui, la démocratie, comment elle se pratique en Côte d'Ivoire? On l'apprend, elle a été importée, on l'apprend et on voir comment on peut vivre avec. Mais on avait déjà des valeurs ici. On nous éduque à les oublier. Et aujourd'hui, on s'étonne que est-ce que ce n'est pas difficile, dur et courir. Mais faisons le chemin inverse, comme il le disait. Réapprenons ces valeurs-là et vivons avec elles pour le bonheur de tous. Et je peux clairement dire, aujourd'hui, la société devient intolérante, la société devient violente, simplement parce que ces valeurs-là tendent à disparaître.
Merci beaucoup à M. Koulibaly Tiozon, directeur général de l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale. Docteur Ya Jérôme, comment on peut faire cohabiter cette façon de voir le monde, de régler le conflit dans nos communautés, les alliances à plaisanterie et la loi romaine?
Alors, on ne peut pas choisir l'un et l'autre au détriment de l'autre, parce que c'est les deux qui permettent d'ériger, de consolider nos rapports, d'harmoniser le vivre ensemble communautaire dont nous avons besoin tous pour un développement inclusif en Côte d'Ivoire. Ce que nous devons retenir, c'est que nous sommes de plus en plus confrontés à la culture de l'intolérance et de la violence, à la culture de la violation des droits de l'homme, à la culture de la violation du droit dignitaire et à la culture de la violation du respect de l'identité humaine et de l'identité traditionnelle. Alors, donc, les deux doivent aller de pair. Autant on doit faire respecter le droit, parce que aucune impunité n'est tolérable ni acceptée, parce que nous on serait devenu une jungle, et qui pourrait accepter de vivre dans une jungle. Mais en même temps aussi, il faut pas donner le dos au Tukpe, parce que l'idée essentielle, c'est que le Tukpe aide déjà à créer les conditions de la tolérance, à rejeter la violence, à respecter les droits les plus élémentaires, à respecter les us et coutumes et à respecter nos ethnies, hein, notre culture. Et donc aussi la société dans laquelle nous nous trouvons veut vraiment aller de l'avant, c'est que les acteurs que nous sommes à tous les niveaux des couches sociales, il faudrait qu'on arrive à respecter et la loi traditionnelle qui est le Tukpe, le Gionké ou les alliances interethniques, mais en même temps aussi respecter le droit qui défend et protège les intérêts de chaque individu, de chaque citoyen, de chaque citoyenne. Mais le hic, voyez-vous, quand on assigne des gens en justice, quand on va même à la gendarmerie, très rapidement, qu'est-ce qui se passe? Les gendarmes qui reçoivent les dossiers conflictuels demandent toujours est-ce qu'il y a eu des règlements à l'amiable auparavant, pour dire que nous sommes dans une société humaine et qui cherche à humaniser d'abord les rapports, parce que les rapports ne doivent pas être conflictuels et ne doivent pas être clivants et on ne doit pas créer des fossés entre nous. L'essentiel pour nous, c'est de créer des ponts d'amour, des rapprochements, des fraternités entre nous.
Or, le problème qui est là, c'est que nous violons tout ça là. On a tous un cours après la justice romaine, la loi romaine, au détriment de la loi traditionnelle qui nous aide à fuir ou à rejeter la violence. Donc, si véritablement on veut vraiment asseoir les bases d'une société unie, d'une société forte, comme la Côte d'Ivoire, qui aspire à devenir une société forte et où tous les acteurs sont impliqués dans le développement, ont une communauté de destin, où on développe une identité commune pour que nous on soit fiers d'être Ivoiriens. Comme lorsqu'on a pris la Coupe d'Afrique, on n'a pas senti de clivage ethnique, on n'a pas senti de clivage politique, on n'a pas senti de clivage social, économique. Mais c'est à ça que la tradition... Les Tupé nous envoie. Et c'est ça aussi que la justice nous envoie. Parce que les deux nous aident à cohabiter, à collaborer, à vivre dans le voisinage, dans l'entente et dans l'amour. Et ça, tant que si on ne peut pas arriver à vivre dans l'entente et dans l'amour, c'est que nous allons vivre comme des animaux. Mais le problème là, c'est que dans le combat pour la paix, nous devons savoir que nous allons rencontrer des difficultés. Et nous devons les surmonter. Nous devons faire ce que nous avons à faire avant de faire ce que nous voulons faire. Éduquer, sensibiliser, promouvoir la paix, promouvoir les alliances, promouvoir la justice, le respect des uns et des autres, ça nous aidera à gagner la bataille contre la violence, contre l'intolérance, pour gagner véritablement la paix, comme Dieu nous l'a promise aux hommes de bonne volonté.
Merci beaucoup, docteur Ya Jérôme. Monsieur Koulibaly, tu osons sur la même préoccupation. Est-ce que on n'enjolive pas trop ces instruments ou ces outils? Je m'interroge aussi, est-ce que dans nos sociétés traditionnelles, avec l'existence de ces toupères, de ces alliances interethniques, n'y avait-il pas des conflits? N'y avait-il pas des violences?
Ce que je dis personnellement, c'est que dans toute communauté humaine, il y a des conflits. Et comment nous les gérons pour ne pas que ces conflits prennent des proportions avec des violences non maîtrisables? Alors, nous ne sommes pas en train d'enjoliver, de faire du saupoudrage pour que... Non, ce n'est pas cela. C'est la réalité. Et j'ai indiqué tantôt que peut-être que les scientifiques, à partir de titres bien précises, avec des données, pourraient nous montrer la différence entre la période où nous utilisons véritablement, où les parents utilisaient véritablement ces outils, et la période dans laquelle ces outils ont été totalement mis à l'écart. Alors, cette étude-là nous révélerait quels sont les meilleurs outils? Aujourd'hui, je suis de ma position, je suis vraiment bien placé pour dire que nous assistons à des violences qui, il y a peut-être 5-10 ans, qui étaient inacceptables, qu'on ne pouvait pas voir. Mais pourquoi? Aujourd'hui, vous parlez de conflits fonciers ou bien de conflits de délimitation de terroir. Mais c'est dû à quoi? À l'oubli de ces pactes qui avaient été signés. Quand mon ancêtre a donné un lopin de terre, a accueilli, n'est-ce pas, des populations qui sont venues d'ailleurs pour des raisons ou d'une autre, il les a acceptées. Mais je suis, en tant qu'Africain, ou bien même en tant qu'être humain simplement, et je pense que c'est un des commandements d'ailleurs de Dieu, honore ton père et ta mère, mais on parle de nos ancêtres là, qui ont contracté. Quand ils ont contracté, ils ont admis un certain nombre de choses. Il aurait fallu donc une bonne transmission de génération en génération pour que cela reste vraiment prégnant dans les esprits et qu'on n'en arrive pas à cela. On va vous dire, il y a longtemps, les deux communautés vivaient ici et que telle communauté a été acceptée par les autochtones. Aujourd'hui, pour des questions de pression foncière, on veut chasser ces autochtones. Mais si on remonte dans le temps, ce n'est pas faisable. À l'époque, vous prenez dans les alliances là, quand un étranger vient, c'est comme un diplomate. Quand il vient chez vous, vous l'accueillez comme un diplomate. Toutes les humanités qu'il y a, que les diplomates d'aujourd'hui ont. Donc, on ne peut même pas imaginer les autochtones en train de l'agresser. Mais c'est parce que tout ça a été oublié. Et aujourd'hui, on se trouve dans des situations. Et l'étranger en question, qui a accueilli là, il sait pourquoi est-ce qu'il mérite tout ce respect. Et il y a des choses qu'il ne se permettrait pas de faire. On a oublié tout ça aujourd'hui. Et c'est ce que nous disons. Ces pratiques-là ont prouvé leur efficacité et ont permis à des communautés de vivre en harmonie. Et nous disons aujourd'hui, nous ne voyons plus cette harmonie-là véritablement. Et pourquoi nous ne les voyons plus? Parce qu'il y a donc la mise à l'écart donc, de ces outils-là. Et c'est pour cela que nous avons vraiment foi qu'en les revalorisant, en faisant une bonne promotion, cela peut nous redonner la tranquillité dont nous avons besoin pour notre développement.
Docteur Yassou, la même préoccupation, est-ce qu'il faut idéaliser ces instruments ou ces outils comme la panacée, la solution au manque de cohésion dans nos sociétés?
Absolument. Nous encourageons cela d'ailleurs. Et pourquoi on ne le ferait pas? Vous savez que le 30 juin 1976, le président Houphouët-Boigny, lorsqu'il a donné sa phrase que tout le monde connaît, « La paix n'est pas un mot, c'est un comportement », c'était à la 61e session des membres du Conseil économique et social des Nations Unies, rassemblés ici à Abidjan. Et il a dit « Rien de la recherche de la paix ne changera. Tant que les hommes d'État n'auront pas fait de la recherche de la paix, autre chose que la biais de leur politique. Tout changera lorsque cette recherche de la paix sera devenue l'objet essentiel, réel et leur seconde nature. Les intérêts qu'ils défendaient jusqu'alors leur paraîtront en ce moment-là bien pervers et dérisoires. La paix n'est pas un mot, c'est un comportement. Comment traduire en comportement ce que nous avons comme acquis? Il faut idéaliser. Et mieux, il faut éduquer, il faut sensibiliser. Il faut qu'on ait des ouvrages. Il faut intégrer dans la formation et l'apprentissage de nos enfants et même des personnes adultes travaillant sur cette thématique à l'endroit des personnes adultes et parfois des chefs de village qui ne connaissent même pas les origines et les contextes. Ils ne savent même pas la fonction. Ils ne connaissent pas les principes totémiques pour expier quand on a violé un principe lié au tout. Mais c'est ça qui explique que ils n'ont pas recours à ces alliances pour régler les problèmes. Nous avons la cartographie ici. Je mettrai ça à votre disposition. On a coutume de dire que les BT n'ont pas d'alliés. Mais c'est faux, c'est une aberration de le dire. Les BT, ils ont pour allier les Dida, les Niabois, les Bakwe, les Krumen, les Kouzier, les Neyo et les Oubi. Souvent, je demande, mais où est-ce qu'on trouve les Oubi? Les Ivoiriens ne savent pas où ce peuple la vit. Ils sont dans la forêt de Taï, qui sont les neveux des BT. Et vous savez que chez les BT, l'alliance se prévaut quand il y a décès. Parce que les BT respectent les neveux et c'est eux qui doivent pouvoir soulever le corps pour aller l'ensevelir. Mais donc en ce moment-là, et toujours dans l'esprit de dédramatiser les peines, la douleur, c'est là le jeu d'alliance joue. Parce qu'avant d'aller faire l'enterrement, tant que les oncles n'ont pas payé quelque chose, les neveux, ils bloquent le corps. On ne connaît pas notre histoire. On ne connaît même pas notre culture. On se méprend sur notre culture. Comment on peut transcender? Comment on peut vivre dans notre propre culture que nous ignorons? On s'est fait de la joie à étudier De Gaulle, à étudier la mère Motte. On ne sait pas qu'est-ce que la mère Motte pourra servir à la Côte d'Ivoire, au développement de la Côte d'Ivoire. Vous allez voir que peu d'étudiants font des recherches sur les alliances parce qu'on ne trouve pas l'utilité et les fondements. Mais non, il faut encourager. Et cette fois, nous saluons vraiment votre initiative, la Radio de la Paix, que nous saluons vraiment pour l'initiative noble. Nous avons besoin. Et au-delà, il faut aller partout, dans tous les hameaux, porter ce message. Et on en a besoin, la Côte d'Ivoire. Et les premiers acteurs, d'ailleurs, c'est les rois et chefs traditionnels, nos chefs traditionnels. Il faut qu'ils en fassent quelque chose. Bientôt, c'est les élections. Vous savez que dans chaque village, il y a au moins un chef de village. Quand une autorité arrive, on demande à voir le chef de village. Parce qu'il est important, parce qu'il a un rôle capital à jouer. Mais c'est à eux de jouer déjà ce rôle-là. Et maintenant, nous les enseignants, chercheurs, nous continuons dedans. Et puis les enseignants, les maîtres, les professeurs. Il faut que tout le monde rentre dans ce moule dynamique. Si on veut avoir une société harmonisée, unie, qui fait la promotion de nos propres valeurs. Ce n'est pas les Européens qui vont venir faire ça pour nous. C'est un cri de guerre, mais je lance cet appel-là. Il faut qu'on se mette dedans. Et aujourd'hui, quand on parle de tout, on te regarde comme si... Mais après, quand il y a la violence, on résout nos problèmes comment? Et nous sommes passionnés du feu boigné. Nous sommes passionnés de la paix. Nous sommes passionnés du vivre ensemble. Le feu a dit, notre combat n'est pas terminé. Il ne sera jamais terminé. Le vrai combat demain, c'est le combat pour la paix. C'est dans son dernier discours qu'il a tenu avant de rendre l'âme. Et nous avons besoin de faire ces promotions-là et avoir recours
aux alliances pour que nous puissions harmoniser nos rapports.
Merci beaucoup, Monsieur Ya Jérôme. Vous êtes chercheur formateur en culture de la paix et gestion des conflits au département de la recherche de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Monsieur Koulibaly Thiozon, on va vous permettre de dire votre mot de fin pour dire que le thème qui nous a réunis aujourd'hui était les Jeux d'Alliance à plaisanterie, un outil de promotion de la cohésion sociale.
Alors, ce que je voudrais qu'on retienne de ce thème, c'est que les alliances interethniques doivent être promues. Et Madame la ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité, de la lutte contre la pauvreté, ayant bien compris cela, elle a décidé que pour tous les conflits qui malheureusement surgiront, il va falloir donc mettre en mission les acteurs locaux pour qu'il y ait une solution endogène. Et pour cela, évidemment, cette année, dans notre programme de cohésion nationale, il y a une journée de promotion des alliances interethniques. Et le lancement sera fait à Bédiala. Et après cela, nous allons sillonner la Côte d'Ivoire pour une caravane donc de promotion de ces outils. Pour dire que nous devons tous nous engager et comprendre que c'est notre identité, c'est notre culture. Si nous allons dans la mondialisation, aujourd'hui, comme je l'ai indiqué, nous revendiquons notre souveraineté. Ce que nous avons le plus à défendre et à protéger, c'est nous-mêmes. C'est notre ipséité, comme le disent les philosophes. C'est nous-mêmes, c'est notre culture. Qu'est-ce qu'on propose? Qu'est-ce qui va nous différencier d'avec les autres? Et encore, ces valeurs-là, nous n'avons pas à en rougir. Ça a permis à nos populations, à nos ancêtres de vivre en harmonie. Et je le dis, on peut faire l'histoire de la Côte d'Ivoire et vous verrez les preuves. Et donc, si on ne réinvente pas la roue, si quelque chose a bien marché, on peut reconnaître à un moment donné que nous sommes égarés. Et donc, il faut retourner. C'est pas, s'égarer, c'est pas ça le plus compliqué. Mais quand on reconnaît qu'on s'est égaré, qu'on refuse de corriger, c'est en ce moment qu'on devient vraiment idiot. Donc, on peut comprendre qu'aujourd'hui, même là encore, il y a des conflits même de leadership au niveau même des chefferies. Mais tout ça, c'est dû au fait que nous laissons de côté notre tradition, nous laissons de côté nos modes de transmission de pouvoir. Et un retour à ces valeurs-là nous aiderait suffisamment. Donc, j'indiquais que tous ces acteurs, mais surtout les chefs de village, si certains, du fait que leur jeunesse peuvent confesser qu'ils n'ont pas une véritable connaissance, comme le docteur Yah le disait, de ces mécanismes-là, il y a donc la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels qui peut organiser donc des séances de formation avec des sachants pour que ces chefs-là soient suffisamment outillés et qu'à leur tour, ils promeuvent donc ces outils au niveau de leur village et qu'ils les utilisent comme mode de règlement, de prévention et de gestion pacifique des conflits. Parce que c'est de cette façon que nous allons régler durablement les conflits dans nos communautés. C'est de cette façon que nous allons régler durablement les conflits intercommunautaires. C'est cet appel-là que je voudrais lancer au nom donc du ministère. Donc, un appel à la promotion de ces outils pour que nous ayons donc la cohésion sociale et que nous ayons donc, pour cette année 2025, année électorale, une élection sans violence. Et comme Madame la ministre tient à le dire, de la même manière, nous avons eu à organiser la meilleure canne de l'histoire, il faut que nous parvenions à organiser la meilleure élection de l'Afrique avec donc tous les outils dont nous disposons, dont particulièrement les alliances interethniques.
Merci beaucoup à vous, chers invités, Monsieur Koulibaly Thiozon, directeur général de l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale, Docteur Yah Jérôme, chercheur formateur en culture de la paix et gestion de conflits au département de la recherche de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. C'est la fin de l'émission Démocratie en progrès, émission présentée par Ben Diakité, réalisée par Antoine Kouassi. À très très bientôt sur nos antennes.
Ce programme a été réalisé en partenariat avec l'ambassade des États-Unis.
Les grands débats. Radio de la paix.